Seigneur, merci de nous conduire dans ce temps d'écoute de ta parole. Nous prions que ton règne vienne au milieu de nous et que ta volonté se fasse pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà. We'll soon be done with troubles and trials. Donc nous en finirons bientôt avec les souffrances et les difficultés. C'est ça l'explication de ce chant. Donc bientôt, le Seigneur revient nous chercher et au ciel, nous pourrons dire bonjour à David, bonjour à nos parents qui sont morts dans le Seigneur, bonjour à nos amis qui sont morts dans le Seigneur. Nous pourrons serrer la main des anciens comme Abraham, comme les 24 vieillards d'Apocalypse. Voilà ce qui attend tous ceux qui croient en Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé « Le salut ». Bien sûr que la plupart d'entre nous connaissons c'est quoi le salut, mais on ne connaît pas toujours tout. Alors on a tenu à faire ce séminaire afin que chacun s'examine, voir s'il est vraiment dans le salut ou pas, mais aussi afin que nous ayons une connaissance claire de cette notion biblique qu'on appelle le salut. Et le premier jour, nous avions parlé des origines de cette affaire qu'on appelle le salut. On avait expliqué que tout commence dans Genèse, lorsque Adam, il pêche, et entraînant avec lui le péché dans toute la création. Dieu, dans sa justice, était obligé de se séparer d'Adam, de fermer la porte du jardin d'Éden, mais Dieu est aussi amour. Dans son amour, il a voulu aussi sauver l'homme, sauver Adam et ses descendants. C'est ainsi qu'il a préparé le salut. Le salut, ça veut dire sauver, sauver de quelque chose. Donc Dieu a préparé le salut de l'homme. Il fallait qu'il sauve l'homme dans son amour à lui. Et on a bien expliqué que l'homme était vraiment dans le désarroi, dans la chute, lorsque nous voyons les conséquences du péché, la maladie, les guerres, les violences, la jalousie, l'impolitesse, la méchanceté, l'égoïsme. Tout ça, ce sont des conséquences du péché et ça détruit l'humanité. Les divorces, tout ça, c'est les conséquences du mal, du péché. Et nous constatons la destruction de l'humanité à cause du mal. Et l'homme cherche des solutions par lui-même, c'est ce qu'on a expliqué le premier jour, mais il n'en trouve pas. Parce que quand les agents de l'ordre chargés de faire appliquer la loi, eux-mêmes ils pêchent, ils prouvent par là que le problème ne se trouve pas au niveau d'un quelconque texte juridique, ne se trouve pas au niveau des caméras ou au niveau du nombre de policiers, parce que les policiers eux-mêmes mentent, le policier eux-mêmes trompent, les avocats trompent, mentent, les juges sont dans la même sauce. Ça prouve par là que le problème est dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Et Dieu a résolu de sauver l'homme. Et c'est ainsi que, par sa grâce, donc gratuitement, dans sa bonté, il a envoyé son fils Jésus pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le salut. Et donc le deuxième jour, nous avons parlé du mécanisme du salut, des mécanismes, de la description du salut. On a voulu que chacun retienne quelques éléments très importants concernant le salut. Le premier élément, c'était la grâce. Dieu nous sauvait gratuitement. On n'a pas à payer quelque chose pour être sauvé. Que ce soit de l'argent. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé parce que nous croyons en l'amour de Dieu manifesté par son Fils Jésus. C'est ce qui est résumé dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. C'est dit aussi dans Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est fait ainsi afin que personne ne se glorifie. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il a répandu sa grâce sur nous pour nous sauver. Mais nous devons répondre à cela par la repentance. C'était le deuxième point du samedi. Il faut se repentir. Se repentir, c'est reconnaître son péché. Reconnaître son état de pécheur. Et vouloir changer cet état. C'est ça, se repentir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons et ils n'ont pas besoin de repentance. En réalité, la Bible nous dit, dans Romains 3, 23, tous nous avons péché. Donc celui qui pense qu'il n'a pas besoin de repentance est un menteur. Parce que si c'était quelqu'un de parfait, il ne mourrait pas, il ne vieillirait point. S'il vieillit, s'il se détériore, c'est que c'est un pécheur, comme tous les autres. Il a besoin de se repentir. C'est très important de retenir ces éléments-là. Et le troisième élément, c'était la conversion. Il fallait accepter de mourir et d'entrer dans une nouvelle vie. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance dans Jean au chapitre 3, qu'on va lire tout à l'heure. Quand Nicodème vient voir Jésus, le docteur de la loi, lui, il pensait que Jésus allait lui donner peut-être quelques passages bibliques qui vont l'aider à entrer dans le salut. Jésus lui dit non, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. C'est un miracle de Dieu. Dieu, c'est lui qui va te faire naître de nouveau. Mais il faut croire. Quand nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il est tout puissant pour nous sauver. Il nous fait naître de nouveau. Donc, celui qui veut être sauvé doit comprendre qu'il changera de vie. Il ne faut pas qu'il vienne juste dans une logique de ticket pour le ciel. Non, il y a une vie à changer. Vous savez, quand on entre dans le cinéma, on ne change pas de vie. On paye son ticket et on entre. Quand on entre dans un match, dans un stade, dans un terrain de football, on paye son ticket et on reste le même. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas payer un ticket, rester le même et attendre le ciel. Non, c'est entrer dans une nouvelle vie. C'est ça la nouvelle naissance. On est mort par rapport à l'ancienne vie. On ressuscite avec la vie de Jésus-Christ. Et le quatrième point, c'était le ciel. Celui qui entre dans le salut de Dieu, il y entre essentiellement pour vivre éternellement avec Dieu. Parce qu'ici sur terre, nous n'avons que 120 ans au maximum. Et au ciel, nous avons une infinité. Nous sommes dans l'infini. Nous avons des milliards d'années. Avec Dieu ou alors avec le diable en enfer. Mais choisissons de vivre les milliards d'années avec Dieu. Et donc quiconque se laisse sauver pour les choses de la terre, pour les vêtements, pour l'argent, pour le mariage, pour la santé, c'est un faux salut, ce n'est pas le vrai salut. Le vrai salut, ça a comme terminus, comme objectif, l'éternité avec Dieu. Et c'est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Et puis nous avons clôturé hier en expliquant que il y a deux terrains. Donc dans la parabole du semeur, il s'agit d'un homme qui sème. Et en sémant, il y a des graines qui tombent sur le bord de la route et tout de suite les oiseaux les enlèvent. Il y a des graines qui tombent sur un terrain rocailleux et la plante pousse très vite, mais il n'y a pas de racines profondes et le soleil sèche la plante. Et il y a des graines qui tombent sur un terrain où il y a d'autres plantes épineuses. Lorsque la plante pousse, les plantes épineuses étouffent la plante. Et le dernier terrain, c'est le bon terrain. Lorsque la plante pousse, elle porte du fruit. Une pour 60, une graine pour 100 et l'autre pour 30. Et c'est ce que le Seigneur explique dans ces paraboles-là. Maintenant, nous avions reconnu notre limite en tant qu'humains pour dire qu'il y a des gens au milieu de nous qui paraissent comme étant dans le salut, mais qui sont en réalité dans le deuxième et le troisième terrain. Mais comme ils ont une vie régulière, de chrétiens dans les assemblées. On les assimile à des chrétiens, mais en réalité, ils sont dans le deuxième terrain. Dès que viennent les persécutions, les tribulations, ils reculent dans leur foi. Le troisième terrain, c'est des gens qui sont encore attachés aux choses du monde. Le succès humain, l'argent, et les faux prédicateurs américains ont répandu ce faux évangile dans le monde entier, l'évangile de l'amour de l'argent. Or, Jésus a dit qu'on doit choisir, il y a deux maîtres, ou c'est lui ou c'est l'argent. Et ces gens-là ont répandu l'évangile selon lequel on est vraiment de Dieu quand on a beaucoup d'argent. C'est très faux. Ça voudrait dire que les païens sont plus proches de Dieu que nous parce que c'est les non-chrétiens qui ont plus d'argent que les chrétiens. C'est vraiment faux et malheureusement, beaucoup ont cru à ce faux évangile. Et ce n'est que le troisième terrain. C'est des gens qui sont pris par les soucis de la terre, par les choses de la terre, à tel point qu'ils ne peuvent plus servir Dieu réellement. Et nous avions dit, ce qu'on peut faire, c'est dire à quelqu'un, tu es dans le deuxième terrain ou dans le troisième terrain, mais nous ne pouvons pas être sûrs que cette personne ira en enfer. Parce qu'on ne connaît pas sa suite. Peut-être que la personne peut changer plus tard. Mais nous devons être capables de dire à un chrétien qu'on assimile au deuxième terrain, on doit être capable de lui dire, tu es dans le deuxième terrain, tu as un problème de conversion, il faut que tu te convertisses. Ou tu es dans le troisième terrain, il faut que tu te convertisses. Nous avions aussi répondu à certaines questions, notamment certaines inquiétudes de gens qui pensent que puisqu'ils ont péché, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? On a expliqué, oui, qu'on pouvait être converti et pécher quand même et confesser. On demande pardon à Dieu et on continue notre vie chrétienne. Mais lorsque nous péchons, nous ne nous en rendons plus compte, nous péchons et nous refusons de confesser, oui, nous pouvons nous poser des questions sur notre conversion. Donc celui qui est vraiment converti, il n'aime plus le péché. Même s'il peut arriver, il peut lui arriver de tomber dedans. Il confesse et il continue sa vie avec le Seigneur. Voilà ce qu'a été le deuxième jour. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance du salut. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Il est écrit ceci. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Avant qu'elle le veuille, maintenant nous n'allons pas expliquer tout ce texte, nous allons retenir ce qui est important pour nous. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Qu'est-ce qu'on ne doit pas réveiller? Ce texte nous montre que l'amour, c'est quelque chose de puissant. Si on n'est pas prêt à entrer dans l'amour, il ne faut pas réveiller ça. La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour puissant. Alors, nous avons vu, nous avons parlé, nous avons agi autrefois parfois dans l'esprit d'amener les gens au Seigneur en disant il faut se convertir sinon tu vas en enfer. Et on a eu raison, c'est vrai. Mais nous devons tout connaître. Qu'est-ce qui est dit là? Ne réveillez pas l'amour. Donc si tu n'es pas prêt à vivre la vie d'amour avec Dieu, laisse tomber. Reste pour le moment dans ton coin. Ne réveillez pas l'amour. La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est une relation de folie. C'est une relation puissante. Comment l'homme a été créé? L'homme a été créé de cette manière. Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Et il a soufflé dans cette forme-là et l'homme a pris vie. Mais c'est la même chose avec le chrétien qui entre, le chrétien, c'est la même chose avec l'homme qui entre dans le salut. Il a déjà une forme, mais Dieu prend cette forme-là et il souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Ça entre. C'est quelque chose qui vient du ciel. Dieu remarque que ce cœur-là est disponible. C'est pourquoi notre conclusion, c'est que laisse ton cœur disposé à recevoir Dieu. C'est ça la conclusion. Dis à Dieu, je suis prêt, je suis disposé à entrer dans l'amour. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour. La relation avec Dieu est explosive. Aujourd'hui, nous vivons dans le milieu chrétien, dans un faux christianisme, où les gens gèrent leur relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut gérer l'amour? On ne peut pas gérer l'amour. D'ailleurs, ça fait partie d'un verset des Proverbes qui dit « Qui peut comprendre le chemin du fiancé vers la jeune fille ?» Qui peut comprendre qu'on puisse aimer quelqu'un? C'est un mystère. C'est quelque chose qui nous surprend. On ne peut pas gérer ça, ça vient. Et le Seigneur dit « Ne réveillez pas l'amour avant que la dame ne le veuille. » Si tu n'es pas encore prêt à entrer dans une relation d'amour avec Dieu, reste dans ton coin. Attends. Parce que la relation avec Dieu est puissante. Lisons Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Verset 7. Jérémie, il vient de se faire emprisonner, frapper à cause de la vérité. Voilà maintenant, il se plaint auprès de Dieu. Il dit, mais te servir m'amène que des problèmes. Dire la vérité ne m'amène que des problèmes. Verset 7. Tu m'as persuadé, dans d'autres versions c'est écrit, tu m'as séduit. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Donc chaque jour, on se moque de moi à cause de la parole de Dieu. Verset 9, maintenant, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Jérémie explique qu'il souffre. Servir Dieu est une source de difficultés, de tribulations pour lui. Alors, il y a des moments où il décide de ne plus servir Dieu. Mais il dit, mais je ne peux pas. Il y a comme un feu en moi. Une puissance en moi qui me pousse à parler en son nom. C'est pourquoi il dit, Seigneur, tu m'as eu. Tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. C'est très important, tout le verset. Tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Notre conclusion aujourd'hui, c'est quoi? Laisse-toi persuader par Dieu. Laisse-toi séduire par Dieu. Vous savez, moi, je n'ai plus le temps de dire aux gens, comme on le faisait autrefois, « Mais tu ne viens pas aux réunions de prière? Tu ne viens pas écouter la prédication ?» Je me dis que c'est une question de feu. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Moi, quand je vois les gens traînailler pour servir Dieu, je dis, « Ils ne sont pas encore convertis. » C'est tout. Je ne veux pas insister. Ah, mais tu rates ceci, tu rates cela. Jérémie, lui, il souffrait. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un traîne pour servir Dieu, il n'y a même pas de persécution. On ne tue personne ici. On n'injurie personne. On peut vivre quelques persécutions là où on travaille, là où on dans notre famille. Mais il n'y a pas vraiment ce que Jérémie subissait. Parce que si vous lisez le contexte, Jérémie venait de sortir de prison. Parce qu'il a prophétisé, on l'a giflé, et puis la prison, on le libère, à peine on le libère, il prophétise encore, quelque chose de difficile. Alors il dit, mais ma vie devient compliquée. Mais quand je veux m'arrêter, il y a comme un feu dévorant en moi. Alors, bien-aimé, le temps où on insistait sur les gens est passé. Le salut, c'est une puissance qui vient sur toi. Si tu n'as pas cette puissance-là, il y a un problème. Est-ce que tu t'es laissé séduire? Nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Ne réveillez pas l'amour. C'est Dieu qui prévient. Attention, n'entre pas dans la relation avec moi. N'entre pas. Ne réveillez pas l'amour avant les choses, avant que vous le vouliez vraiment. Ne réveillez pas l'amour. L'amour est puissant. Jérémie n'arrivait pas à quitter Dieu. Il a dit, je souffre à cause de toi. Mais je préfère rester avec toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On voit des familles, des mères qui souffrent à cause d'un enfant, mais ils ne vont jamais rejeter cet enfant-là. Jamais. Parce qu'elles aiment cet enfant. C'est ça l'amour. L'amour est puissant. L'amour est supérieur à l'orgueil. L'amour est supérieur à l'égoïsme. L'amour est supérieur à l'argent. Quand une mère décide de sacrifier sa vie pour son fils ou sa fille handicapée, elle vit cloîtrée pour son enfant. C'est ça l'amour. Ça dépasse les tentations du monde. C'est plus grand. Et le salut, c'est le souffle de Dieu qui vient sur quelqu'un. Boah! Remplir la personne d'amour. Vous savez, quelle a été la conséquence dans le jour de la Pentecôte? Les gens retiennent seulement les miracles ou les parlant langue. La conséquence était que les chrétiens étaient tellement remplis d'amour pour Dieu qu'ils vendaient leur maison et ils donnaient à Dieu. Qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont aimés parce qu'il est dit, le commandement de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me souviens, vous savez, on a vu l'histoire de Khalil, ce terroriste égyptien qui a connu le Seigneur. On lui avait donné, par son maître, puisque c'était un grand intellectuel, on lui a donné le travail de lire la Bible, de trouver les erreurs et de faire un livre contre la Bible. Mais en lisant la Bible pour trouver les erreurs, il a été touché et il s'est converti. Il a plutôt fait un livre contre le Coran pour démontrer les erreurs du Coran. Et le jour où il s'est décidé vraiment à suivre le Seigneur lui est apparu. Et ce jour-là, il avait même perdu sa Bible en chemin. Et la question qu'il pose au Seigneur, mais quand le Seigneur, il discute avec le Seigneur, et puis la question qu'il pose au Seigneur, mais où est partie ma Bible? Ah, bien-aimé! Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, mais mon problème de maison, Seigneur, Mais mon problème de boulot, de travail, Seigneur, je suis malade. Non, lui, il a demandé au Seigneur. Mais vous imaginez qu'il a le Seigneur devant lui. Qu'est-ce qu'il lui demande? Mais je ne retrouve plus ma Bible. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas, une Bible ne peut jamais être perdue. Et quand le Seigneur est parti, il ouvre l'armoire, il retrouve la Bible qu'il avait perdue en chemin. Alors, qu'est-ce que dit Khalil? Khalil, il a passé toute nuit, c'était la nuit qu'il avait rencontré le Seigneur ainsi. Le matin, quand il se promenait dans les rues du Caire, la capitale d'Égypte, il embrassait tous les SDF, les clochards, il les trouvait tous beaux. C'est-à-dire, le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça s'est appliqué naturellement parce qu'il avait reçu le vent, Jean 3, nous allons lire Jean 3. Il a reçu le vent de l'amour et de la puissance de Dieu. Donc, sans effort, il aimait tout le monde. Mais quand il faut trop d'efforts pour aimer les gens, pose-toi des questions, bien-aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le même commandement que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est le même. Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que le vent a soufflé sur toi? Si ça n'a pas encore soufflé sur toi, est-ce que tu es disposé? Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Tu as voulu réveiller, mais tu n'étais pas prêt. Et le vent ne souffle pas comme il faut. Jean chapitre 3. On va entendre parler du vent. Il y eut un homme, verset 1er, d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'esprit et d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, voilà, où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. Le vent souffle. Jérémie a reçu ce vent-là, et on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé clairement, mais ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait plus laisser le Seigneur. Malgré toutes les souffrances, malgré toutes les difficultés, le Seigneur était pour lui. Cantique 2:16. Mon bien-aimé est à moi, et moi aussi je suis à lui. Ne réveillez pas l'amour, bien-aimé, avant le temps. Si tu n'es pas prêt pour cette relation-là, reste dans ton coin. La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Il faut choisir. Et Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. Souvenez-vous le jour de la création, la vie a commencé par le souffle. Eh bien, aujourd'hui encore, dans la nouvelle naissance, la nouvelle création, c'est encore le souffle qui commence la vie. C'est ce vent-là que tu reçois, mais qui commence à te conduire. Ou tu ne sais pas. Tu ne sais pas où il te conduit ce vent-là. Mais quand tu gères ta relation avec Dieu, sincèrement, il y a un problème de conversion. Ce n'est pas le vent qui souffle sur toi. Ce n'est pas le vent qui te pousse. C'est toi qui gères. Ah, oh, je n'ai pas le temps. Ah, je. Ce n'est pas le vent qui te pousse. Vous savez combien de fois on n'a pas été fatigué physiquement à fond. Mais comme tu sais que c'est le vent qui te pousse, tu vas prêcher la parole de Dieu. Combien de fois n'a-t-on pas manqué de moyens pour servir Dieu? Mais comme nous savions que c'était le vent qui nous poussait, le vent a tout préparé. Nous, on suit le vent. On a été séduits. On s'est laissé séduire. Comme Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même la ceinture, tu allais où tu voulais, tu gérais. Tu n'étais pas encore vraiment converti. Mais maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est ça le vent de Dieu. Jean 7, 38 à 39. Il faut que je lise ça parce que je risque d'oublier. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. L'esprit n'était pas encore. Maintenant, désormais, celui qui croit en Jésus, le vent vient le saisir. Waouh ! Ça devient quelqu'un de nouveau. Et c'est le vent qui le conduit. Les gens sont étonnés. Mais d'où vient ce vent ? Où il va ? Personne ne sait. Mais on entend le bruit. On voit l'action de ce vent dans la personne. C'est ça la grande question. Est-ce que le vent t'a saisi ? S'il ne t'a pas encore saisi, tu n'es pas encore disposé. Tu tiens encore trop à toi-même. Tu ressembles aux gens de Luc 9, 57 à 60. Hein? Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 9, 57 à 60 ? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Des gens qui disent, « Mais permets-moi de faire ceci, permets-moi. » Ils ne veulent pas se lancer dans le vent avec le Seigneur. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'aigle vole, c'est qu'il se sert pour arriver dans les hautes, dans les grandes hauteurs. Il se sert des vents ascendants. C'est le vent qui porte l'aigle jusque dans les hauteurs. Il sait comment se coincer dans les vents pour que les vents le portent. C'est ça l'enfant de Dieu. Il est dans le vent du Seigneur. Et le vent souffle. Et il va avec le Seigneur dans le vent. Mais qui peut arrêter le vent ? Personne. Pourquoi Satan arrête beaucoup de gens ? Parce qu'ils ne sont pas dans le vent du Seigneur. Ils gèrent leur propre vie. Je ne dis pas que le véritable converti ne va pas avoir de difficultés. Il va avoir des épreuves, il va avoir des difficultés. Mais il est écrit dans 1 Jean 4, 4, « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Dans ses difficultés, dans ses épreuves, ça va l'aider à s'humilier, de sorte à rendre gloire à Dieu. Mais en s'humiliant, Dieu va manifester encore un vent plus fort, comme les amis de Daniel. On vient leur dire, bon, ça y est, vous êtes coincés, vous n'avez pas adoré la statue d'or. Si vous n'adorez pas, on vous jette dans le feu. Ils ont dit, nous, on n'a pas de discussion à faire sur ces choses-là. On ne va pas adorer. Quoi ? On va vous jeter dans le feu. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas de polémique à faire. Nous croyons que notre Dieu, c'est le seul Dieu. Et nous sommes attachés à lui. Donc même s'il faut brûler, on brûlera, mais nous restons attachés à lui. Amen. Mais, parce qu'on parle de la puissance. Là, nous sommes en train de parler de la puissance d'origine. Qu'est-ce qui fait qu'on devient chrétien ? C'est une puissance qui vient du ciel. La puissance même qui a fait que nous soyons humains, c'est cette même puissance qui fait que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Dieu nous souffle autre chose, le vent du Saint-Esprit. Et ça crée un amour pour lui total. Et en même temps, une puissance pour produire la gloire de Dieu en nous. Des fleuves d'eau vive. Ben, on vous jette dans le feu. Mais il nous est dit que ils n'ont pas été brûlés dans la fournaise, alors que les gens qui les ont jetés ont été brûlés. Ils sont morts, mais eux, ils n'ont pas été brûlés. Et quand ils sont sortis, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. Daniel, pareil. On dit maintenant, il ne faut plus prier autre chose que le roi. Daniel continue à prier l'Éternel parce qu'il était lié à Dieu. Bien-aimé. Comment expliquer que des gens qui ne subissent pas des contraintes les contraintes qu'on vient de citer arrivent à ne plus prier Dieu? Alors que Daniel subissait une contrainte terrible et il pouvait prier Dieu en cachette dans les toilettes. Non, il continue à prier Dieu au même endroit qu'avant. De sorte qu'on l'a vu. Et on l'a amené vers le roi. On lui demande de changer de position. Il dit non. Mais on va t'envoyer dans la fosse au lion. Pas de problème. Mais puisque ce vent-là, ce n'est pas seulement le vent d'amour, c'est le vent de puissance. Il entre dans la fosse au lion. Jusqu'au matin, les lions ne l'ont pas mangé. Et le roi, quand il voit ça, il dit non, ton Dieu est le véritable Dieu. Amen. Quand on mène cette vie-là avec le vent de Dieu, on va produire autour de nous des vraies conversions. Parce que les gens vont voir que Dieu est vraiment puissant en nous. Mais quand on mène une vie de cow-boy fatigué, où on gère notre vie chrétienne en fonction de nos états d'humeur, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Une vie avec des mélanges. Quand Jésus a demandé à une femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau? La femme a voulu faire beaucoup de discours. Jésus dit, ah madame, si vous saviez qui vous demandait de l'eau, c'est vous qui chercheriez à lui demander de l'eau. Et l'eau qu'il va vous donner va couler dans la vie éternelle. Bien aimé, nous n'avons plus le temps d'insister sur les païens, dire beaucoup de choses. On est là. Je mets ma veste, Jésus sauve. Si tu lis, tu veux discuter, moi je te dis attention, celui qui est là est plus fort que ton président, que ton avion, que tout. Si tu veux douter, c'est toi qui vas le rencontrer. Un jour, tu te souviendras qu'on t'avait prévenu qu'il était plus fort. Tu te souviendras. Jésus a dit, oh madame, moi je suis plus que tout ça. La femme a voulu douter. Jésus lui a dit, mais tu avais six maris, non? Oh, comment? Il connaît ma vie. Voilà. Jésus lui a donné un avant-goût. Et quand il a ramené des gens, les gens ont dit à la dame, mais c'est vrai qu'on avait été touchés quand tu nous as parlé, mais quand on a rencontré ce monsieur, on a compris que la vérité se trouve vraiment en lui. C'est ça la vérité, bien aimé. Jésus est puissant. La vie de salut est une vie de puissance et de gloire. Parce que c'est le vent du Saint-Esprit qui nous saisit. Le vent d'en haut, la puissance du ciel. Vous vous imaginez aujourd'hui que quand quelqu'un est sauvé, il est devenu un enfant de Dieu. Est-ce que vous réalisez c'est quoi être enfant de celui qui est le roi des rois? Le Seigneur des Seigneurs. Mais tout ça t'appartient. L'apôtre Paul, lui, l'a réalisé ça. Il a dit, nous n'avons pas grand-chose, mais tout est à nous. Parce que tout est à mon Père, donc tout est à moi. Mais mon Père me donne que ce dont j'ai besoin. Même si tout est à moi. N'est-ce pas que un bébé peut naître dans une famille royale, mais est-ce que ce bébé-là possède tout? Est-ce qu'il fait plutôt, est-ce qu'il use de tout? Quand il est bébé, il n'use pas de tout. On lui donne ce dont il a besoin. Un biberon. Une couche. Mais tout ce qui est dans le palais royal est à lui parce qu'il est le fils du roi. Et nous sommes dans cette même catégorie-là. Tout le monde entier, l'humanité est à nous. Mais Dieu nous donne au bon moment ce dont on a besoin. Ça ne change pas le fait que tout soit à nous. Maintenant qu'on entend des prédicateurs dire « chercher l'argent », c'est faux. Tout est à nous déjà. On n'a pas besoin de chercher. On est dedans. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fait que nous sommes délivrés des puissances des ténèbres. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pendant la persécution des chrétiens en Russie, en URSS à l'époque, un jour un chrétien est arrêté dans une prison. Et le gardien lui dit, mais vous vous dites que votre Dieu est tout puissant. Eh bien, il faut que tu nous le démontres aujourd'hui. Il prend un peu de poison. Il donne ça à un chien berger. Le chien berger, dès qu'il prend la quantité, une faible quantité, je crois dans la nourriture, cette quantité le foudroie, il meurt tout de suite. Il dit aux chrétiens, si votre Dieu est tout puissant, toi tu vas boire carrément le flacon, on va voir si tu vas résister. Mais le monsieur ne savait pas que c'est dit dans Marc 16, 17. Ceux qui croient en Jésus prendront des breuvages mortels, hein, et rien ne va leur arriver. Lui, il ne savait pas. Et il ose attaquer le fils du roi. Le chrétien a pris, il a bu le flacon. Le monsieur a attendu 30 minutes, rien. Le chrétien était toujours vivant. Il s'est agenouillé, il a dit au chrétien, « Moi aussi, je veux devenir chrétien. » C'est ça la puissance des enfants d'en haut. Aujourd'hui, on entend à gauche, à droite, des pasteurs qui se promènent avec des pots de miel au cas où ils seraient empoisonnés. C'est le miel qui est devenu le Saint-Esprit pour eux. Mais non, bien-aimés. Ceux qui prendront des breuvages mortels, rien ne va leur arriver. C'est la puissance de Dieu. Nous, quand le Saint-Esprit nous autorise, on mange partout. S'il va refuser, c'est pour nous éviter la gourmandise. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Il a pris le poison, il n'est pas mort. Jésus est vivant. C'est ça la puissance du ciel. Nous sommes délivrés des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Mais là, souvent les gens qui nous cherchent, ils se disent, mais comment on ne l'a pas trouvé? C'est que lui aussi, il est dans une maison de magie. Non! Tu ne m'as pas trouvé parce que je suis caché dans la main de Jésus-Christ. Vous savez, même quand on est jeune dans la foi, du moment qu'on est dans la relation avec Dieu, le vent est là. Vous savez, on nous a raconté l'histoire d'une petite fille de peut-être 14 ans comme ça. Elle est partie dans un village de Côte d'Ivoire visiter ses parents. Là-bas régnait un homme, un grand féticheur. Sa spécialité, c'était prendre toutes les femmes. Et quand la fille de 14 ans arrive, le monsieur, il vient faire les avances. La fille dit, non, moi je suis de Jésus, je suis de la nation céleste. Quoi? Moi, on ne me refuse jamais. Le monsieur revient avec beaucoup d'argent. La fille dit, mais non, mais moi je suis déjà riche en Jésus. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Une fille de 14 ans. Environ. Le monsieur repart, il dit, je vais la voir, je vais me transformer en serpent, je vais la mordre, comme ça ses parents, quand ils vont me la ramener pour la guérir, je vais la voir comme ça. Et la fille était partie avec les femmes, puiser de l'eau dans la rivière. Et maintenant, au retour, le monsieur était caché comme un serpent dans les buissons, en train d'attendre que la fille passe. La fille chantait un chant, je crois peut-être « Jésus le roi des rois ». Un exemple. Hein. Le serpent voyait du feu sortir de la bouche de la fille. Quand il veut se cacher, le feu le suit encore. Plus la fille s'approchait, plus le feu allait dans sa direction physiquement. Le serpent a détalé, bien aimé. Il a fui. Il a dit « Bon, on va voir la nuit ». La nuit, il vient dans la sorcellerie venir attaquer cette fille-là. Quand il arrive, il trouve que l'endroit où la fille dormait, c'était clôturé. Alors comme il a le pouvoir de voler la nuit, il veut voler pour dépasser la clôture s'élève encore. Il fait beaucoup d'efforts, il dépasse la clôture, mais qui est-ce qu'il retrouve face à face de lui? L'ancien des jours, un vieillard tout blanc qui le regarde. L'ancien des jours. Donc, ses réacteurs, ses hélices se coupent au ciel là-bas, il tombe, boum! À partir de ce jour-là, il s'est converti en Jésus-Christ. Il comprend que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'était une fille, une petite fille, ce n'était pas une grande fille. Et on nous raconte aussi toujours qu'une dame était une magicienne. Elle faisait des beignets, donc elle avait beaucoup de succès. Et beaucoup de gens allaient acheter cette dame-là. Un jour, une petite fille de 8 ans environ, elle était aussi dans la queue pour acheter les beignets, mais elle était dans la queue en chantant encore un chant sur Jésus. Jésus, le roi des rois. Le public voit la dame qui vend les beignets commencer à s'agiter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle tremble comme ça? Et plus la fille avance avec Jésus, le roi des rois, elle s'agitait davantage. Dès que la fille s'est rapprochée, elle est tombée, boum! Qu'est-ce que ça? Ah, scandale! La fille dit, mais mon père chasse ce genre de trucs. La fille chasse les esprits au nom de Jésus-Christ. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on voit les chrétiens. Ah, j'ai peur. Ah, oh, mais toi, tu es chrétien. Tout le temps, j'ai peur. On a envie de donner un coup de pied, bien-aimé. Oh, j'ai peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. Nous sommes délivrés des puissants des ténèbres. Nous avons la vie en abondance. Nous sommes heureux, même sans argent. On est bien, parce qu'avec la foi, nous pouvons tout avoir. On n'a pas besoin de l'argent physique. On a besoin de la foi. Avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons acheter avec la foi. Nous avons une banque céleste et nous demandons notre Père. Voilà l'héritage de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une vie puissante. Ce n'est pas une vie où on s'accroche à l'argent comme Harpagon, non. Une vie libérée de la puissance de l'argent, parce que Dieu pourvoit toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deux exemples de conversion pour se finir. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Regardons la transformation de Zachée quand il rencontre le Fils de Dieu. Transformé intégralement, alors qu'il était considéré par tous les humains comme un grand pécheur. Mais Jésus-Christ peut sauver n'importe qui. Même le plus grand pécheur, il peut le sauver. Un homme avait été condamné à mort dans un pays africain. Et là-bas, on ne badine pas, on l'a enchaîné à un bloc de béton, on l'a jeté dans l'eau pour qu'il se noie. C'est ça la condamnation à mort. Mais pendant qu'il était jeté, pendant qu'il était sous l'eau, il voit Jésus lui apparaître sur la croix. Jésus lui dit, « Mais je suis mort à la croix pour toi. » Jésus l'a délié des chaînes et l'a fait sortir. Cet homme est devenu un témoin de Jésus partout où il allait. On l'a tué par vengeance parce qu'il avait tué beaucoup de gens autrefois. Mais il a servi son Seigneur avant. Jésus peut sauver n'importe qui. Actes des Apôtres, chapitre 9, une autre conversion. Un homme persécutait les chrétiens, faisait souffrir les chrétiens, faisait du mal aux chrétiens, il s'appelait Saul. Voilà son histoire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait inutile de résister encore. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas, jusqu'à ce qu'il ait été sauvé et baptisé. Cet homme persécutait les chrétiens, mais il n'avait pas encore rencontré le maître des chrétiens. Vous savez pourquoi les gens ne rencontrent pas le maître des chrétiens? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment chrétiens. Ils ne sont pas eux-mêmes entrés dans le salut. C'est pourquoi leur maître ne se révèle pas clairement aux autres. C'est le moment de laisser tomber, d'entrer dans le vrai salut. Total. Et Paul a vu le vent l'atteindre. Boum! Il s'est donné au Seigneur entièrement. Paul a vécu toute sa vie pour le Seigneur, au point même qu'il ne s'est pas marié. Tellement il était aimé, il a aimé le Seigneur. Il est vraiment celui pour qui on peut dire Cantique de CS, mon bien-aimé est à moi, moi je suis à lui. Il avait cette relation avec le Seigneur et il a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça la vraie relation du converti avec le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on est dans cette relation, bien-aimé, on a envie de partager ça à tout le monde, à tout l'univers. On veut raconter à tous les bienfaits de l'Éternel. On veut dire à tous, c'est possible une nouvelle vie. C'est possible d'être sauvé. C'est possible de ne plus dépendre du sexe, de ne plus dépendre de l'alcool, de la drogue. C'est possible de ne pas dépendre, de ne plus dépendre de la cigarette. C'est possible d'être heureux aujourd'hui. C'est possible. Parce que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le jour où Jésus t'appelle à être sauvé. Et quand tu es sauvé, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est ça, ça fait partie du salut. Ça va ensemble. Quelqu'un qui est sauvé va chercher à annoncer à tout le monde. Même si ce n'est pas lui qui va parler, il va contribuer aux œuvres qui permettent d'annoncer la parole à tout le monde. Ça fait partie du salut. La puissance pour annoncer l'Évangile. Jésus nous appelle à une vraie conversion, à entrer dans son salut. Son salut n'est pas qu'un ticket pour le ciel, c'est une vie nouvelle, transformée, vécue à son image, une vie puissante. Psaume 68:29 nous dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Celui qui est en nous est puissant. » Ce n'est pas une vie accrochée aux détails de la terre, c'est une vie céleste. C'est le vent de Dieu qui nous rencontre. La conclusion, comme on l'a dit au début, est-ce que ton cœur est disposé à ce qu'on réveille l'amour? Veux-tu qu'on réveille l'amour? Si tu veux qu'on réveille l'amour, ben nous allons prier pour tous ceux qui veulent entrer dans le salut de Dieu, dans la conversion totale. Vous pouvez avancer devant. Nous allons prier pour vous. Vous qui autorisez Dieu à réveiller l'amour aujourd'hui, même passez devant, nous allons prier afin qu'une nouvelle vie commence pour vous dans la gloire et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta puissance au milieu de nous. Nous croyons en toi Jésus que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Seigneur de te manifester pleinement dans les bien-aimés qui vont avancer. recevoir ton souffle aujourd'hui, devenir des personnes nouvelles. Les gens qui sont prêts à ce que tu réveilles l'amour dans leur cœur. Car tu as dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et aujourd'hui, nos bien-aimés le veulent, que tu réveilles l'amour, Seigneur Jésus. Je crois en toi que tu vas réveiller l'amour, qu'ils vont commencer une nouvelle vie puissante avec toi, une vie de salut, une vie libérée du péché et de la mort, libérée de raisonnements personnels, libérée de la pesanteur de la chair. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu. À moi.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi.
Jésus, aujourd'hui, je laisse mon cœur ouvert à ton amour, ouvert à ton pardon. Je veux commencer une nouvelle vie dans la foi à ton œuvre accomplie à la croix. Purifie-moi par ton sang de tout péché et fais de moi une nouvelle création vivante pour ta gloire. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je viens prier pour mes bien-aimés afin que le souffle du Saint-Esprit, celui même qui a produit la création, que ce même souffle produise la nouvelle naissance dans la vie de nos bien-aimés. Dans nos vies, que ce souffle se manifeste et que nous ne soyons plus les mêmes, Seigneur. Que ceux qui étaient des ténèbres quittent nos vies définitivement. Quitte mes bien-aimés. Qu'une nouvelle vie commence par ta puissance, Seigneur Jésus. Par ta puissance. Par ta puissance qui soit remplie de l'amour pour toi et pour les humains. Par ta puissance qui soit remplie de la victoire sur le péché, sur le mal. Qui soit rempli de foi pour marcher avec assurance avec toi. Merci pour le pardon. Merci pour ton grand amour dans leur vie. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. On chante ensemble tel que je suis, quatrième couplet.
tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu.
Quatrième couplet encore.
Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu.
Seigneur, pour la nouvelle vie qui commence dans nos bien-aimés et dans nous tous, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.